marche du monde.
Contre la vermine démocrate, demandez l'action française, mesdemoiselles.
Sale fasciste,
vous vous foutrez en tôle, vous et toute votre clique de juifs et de métèques. Perdons pas de temps, le maréchal parle à la radio dans une heure. À bas la République et vive la France.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
La France est morte.
Non, on peut pas se coucher devant les boches. Et on va se battre, je te jure qu'on va se battre.
La guerre est une chose sérieuse, Danny. Tu te ferais tuer immédiatement.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bonjour, Daniel Cordier.
Bonjour, madame.
Vous nous recevez chez vous à Cannes, en avant-première, des rendez-vous de l'histoire de Blois, où vous allez témoigner. Les rebelles, c'est le thème des rendez-vous de l'histoire cette année. Daniel Cordier a 94 ans. Est-ce que vous êtes encore et toujours un rebelle?
Ah oui. Ah, sans aucun doute. C'est un rebelle parce que, bon, j'avais peut-être beaucoup d'autres perspectives, projets, ambitions, etc. Mais j'en ai un auquel j'ai été fidèle toute ma vie, et encore maintenant, c'est la liberté. Je suis pour la liberté, et aujourd'hui encore, je ne sais pas avec quel moyen, mais s'il fallait me battre, ah oui. Il y a une espèce de mobilisation des restes de ce que je suis. Dès qu'il s'agit de la liberté, je suis volontaire.
Pour quelles raisons avez-vous accepté de témoigner à Blois et quel sens est-ce que vous donnez à la transmission de votre expérience de résistant?
Oui, là, il faut que je vous dise un mot du passé. C'est que, au fond, je suis un enfant de la guerre de 14. Je suis né en 1920. Et toute ma jeunesse, tout ce que j'ai entendu, toutes les histoires, et même la vision de mon enfance, ce sont d'abord les femmes en grand deuil. Vous n'avez pas une idée aujourd'hui de ce qu'est le grand deuil. Parce que les femmes de tous les combattants qui étaient morts, de tous les soldats qui étaient morts, étaient en grand deuil. C'est-à-dire qu'elles l'étaient de la tête aux pieds en noir, et elles avaient une espèce de voile en tulle noir devant les yeux. C'était des... Voilà, c'était ça, et ça c'est drôle, parce que j'ai jamais vu quelqu'un en parler. Mais c'est l'enfance de tous les gens de ma génération. C'est cette image et les conversations. Il y a deux conversations qui sont le fond de mon alphabet, de tout ce que j'ai connu. C'est la guerre et les avocats à cause du divorce de mes parents quand j'avais 4 ans. Et j'habitais avec ma grand-mère après le divorce de mes parents. Et lorsque j'avais 5-6 ans, et elle lui a dit, mais à quel âge je vais partir pour la guerre? Et ma grand-mère m'a dit, mais ne dis pas des horreurs comme ça. Je dis, mais tous les hommes vont faire la guerre et je veux faire la guerre. Elle m'a dit, bon, au lit. Voilà le commencement de ma vie.
Vous êtes un passionné, Daniel Cordier, vous êtes un fervent. Et vous êtes entré très très jeune en politique.
Merci. Hein.
Alors vous qui êtes devenu un grand résistant, vous qui êtes connu pour être un homme de gauche, un libre penseur, c'est pourtant à l'extrême droite que tout jeune, vous êtes entré en politique. Alors évidemment, c'est extrêmement surprenant. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous avez 14-15 ans, vous êtes subjugué par Charles Maurras et vous croyez en ce discours patriotique, nationaliste, anti-républicain?
Non, mais il y a quelqu'un dans ma vie, c'est mon beau-père. Mon beau-père était le fils d'un Cordier qui était journaliste, qui était d'extrême droite, qui avait fondé à Bordeaux un journal avec le marquis de Lursalus, enfin, etc., etc.
Daniel Cordier, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ces idées anti-républicaines? Pourquoi vous adhérez à cette vision politique?
j'ai adhéré parce que mon beau-père, que j'admirais, parce que il était ancien combattant, on avait cru qu'il mourrait après la guerre et tout ça, il s'était rétabli, il avait fait des courses automobiles, et il avait écrit des pièces de théâtre, et ça, c'était pour moi un roman. Et puis, bon, il était très élégant, mais ça ne se voyait pas. C'était un mythe pour moi. Et donc, je me suis retrouvé royaliste, c'est-à-dire que je lisais l'Action française, c'était pour Morand, pour Léon Daudet, et puis après, je suis devenu Camelot du Roi, et quand j'ai eu 17 ans, j'ai fondé le Cercle Charles Maurras à Bordeaux. J'étais Action française, j'étais... Et quand je suis parti, j'étais toujours...
Ah oui, justement, pour que les jeunes aujourd'hui, qui ont l'âge que vous aviez à l'époque, comprennent bien, être Action française, qu'est-ce que ça voulait dire?
Ah, ben, le mythe de l'Action française, c'était les Camelots du Roi. C'était un journal qui s'était fondé en 1898, je crois, et c'était des activistes, des gens qui avaient entre 18 et 22 ans et qui se bagarraient à coups de matraque au Quartier Latin, ils organisaient des réunions où ils allaient saboter les réunions des communistes. Enfin, les Camelots du Roi, c'était l'Action, et ça, c'était le mythe de mon enfance.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour la France à ce moment-là?
Ah ben, le roi. Le retour du roi, ah ben ça c'est évident. Et alors on organisait des réunions, et Maurras venait de temps en temps à Bordeaux. Et alors au fond, mes études à partir de la quatrième, c'était n'importe quoi, parce que la seule chose qui comptait, c'était faire des conférences dans mon cercle, le cercle Charles Maurras. Quand même, nous étions arrivés à une centaine de collégiens. Le cercle Charles Maurras.
Tu m'as jamais aussi bien vendu.
Ça m'étonne pas. Pétale, ouvre enfin les yeux.
La France ne sera pas l'esclave des Boches.
Demandez l'Action française.
Reprends.
Royaliste militant, Daniel Cordier. Et le 17 juin 1940, lorsque Pétain, qui est le héros de 1914, c'est donc votre héros, annonce la capitulation de la France, comment vous réagissez?
Les discours de Pétain, ben, c'est le commencement de ma vie. Et je me souviendrai toujours. Paul Reynaud est parti, et le maréchal Pétain est au pouvoir, et il va parler à midi et demi. Je suis allé chercher ma mère, et nous étions tous les trois devant le grand poste de radio que nous avions.
À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume, à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France.
Bon, les premiers mots du discours célèbre de Pétain, ça n'intéresse pas et tout. Et tout d'un coup, au milieu...
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi.
Et alors, dès le dernier mot de son discours, je revois ma mère qui s'est affaissée entre les bras de mon père. Et je suis monté 4 à 4 dans ma chambre, je me suis jeté sur mon lit, et en sanglots. Et alors, quand j'ai repris mes esprits, j'ai dit non, mais c'est un vieux con, c'est pas possible, la France ne peut pas être battue.
On peut pas se coucher devant les Boches, et on va se battre, je te jure qu'on va se battre.
Et puis, ça allait très vite dans ma tête. Mais au fond, je disais, mais c'est ça, c'est un vieux con, il est trop vieux, il est gâteux. Et au fond, c'est nous, les jeunes, qui devons sauver la France et qui devons nous battre.
Daniel Cordier, vous êtes totalement bouleversé, mais très vite, vous décidez de vous battre et vous vous dites, voilà, c'est avec mon groupe de l'Action française, nous devons faire quelque chose.
Absolument. Je suis allé me promener un petit peu dans Pau, qui est tout petit. Et j'étais stupéfait parce que c'était le plus grand drame que la France avait vécu. Les gens buvaient les orangeades et puis les gens faisaient des courses. C'était stupéfiant. Il ne se passait rien. La France était en train de mourir et à Pau, il ne se passait rien.
Daniel Cordier, à ce moment-là, De Gaulle, c'est un illustre inconnue, et pourtant, vous allez vraiment trouver la solution à votre désir d'action, à votre désir d'en découdre, et vous allez filer sur Londres.
Non. Moi, j'étais pas d'accord pour aller à Londres, parce que je voulais me battre, et l'armée française était en Afrique. Finalement, mon beau-père a payé pour les 17 garçons le bateau belge dans lequel nous sommes montés, et le lendemain matin, le capitaine nous a dit, nous n'allons pas en Afrique du Nord, nous allons en Angleterre, parce que, à bord, il y avait un ministre belge de je ne sais pas quoi. Le gouvernement belge se réunit à Londres. Il faut que nous allions à Londres. Voilà pourquoi je suis allé là-bas. Nous sommes arrivés à Londres et pour me calmer, j'avais un très très bon camarade avec moi qui m'a dit « Mais ne t'inquiète pas, on trouvera un bateau, on partira en Algérie. Bon. » Et puis quand l'armistice a été signé, le représentant de la France est venu pour prendre les noms de tous les Français qui étaient là en leur disant « Mais maintenant, Pétain a fait la paix, vous rentrez en France. » Et quand ça a été fini, il dit « Écoutez, moi, j'ai eu beaucoup de mal à venir en Angleterre parce que je veux me battre contre les Allemands. Alors, qu'est-ce que l'on fait ?» Et il m'a dit « Mais monsieur, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rentrer en France, parce que le maréchal Pétain, qui est le grand héros français, a demandé l'armistice et la guerre est finie. » Et bien, je lui dis, pour moi, elle n'est pas finie, elle n'est pas commencée.
Tout est contre vous, mais vous continuez.
Ah oui. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait?
Eh bien, justement, c'est très intéressant de se poser la question, parce qu'on se demande tous, ça, face à de tels événements, qu'est-ce que chacun de nous aurait fait?
Mais alors, je vais avoir la réponse deux jours après. Il y a un officier très désagréable et très hostile qui est venu pour ceux qui ne rentraient pas en France. Et nous étions une cinquantaine autour de lui. Et il a dit, face au problème de la guerre, il y a trois solutions.
Vous avez trois options. Un, rentrer en France. Deux, vous engager comme travailleur dans les usines anglaises. Trois, rejoindre la Légion française qui se constitue.
Parfait.
C'est-à-dire ?
La Légion.
Je vais donc prendre les noms des volontaires qui acceptent de s'engager sous les ordres du général de Gaulle.
Et puis, le 2 juillet 1940... on nous a dit, vous faites vos baluchons et on vient vous prendre ce soir pour rejoindre le général de Gaulle.
Pour rejoindre le général de Gaulle.
D'où vous venez?
De Brest. Et vous?
Le Conquet.
Concarneau.
Saint-Malo.
Carnac.
Toi, tu viens d'où?
Saint, on est tous là.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire
très nombreux. Les Français libres, nous n'étions pas 3000. Mais le fond de la France libre, ce qui allait former l'infanterie de la France libre, ce sont les 620 collégiens qui étaient là.
Donc vous êtes tous de très jeunes engagés. Alors comment ça se passe, Daniel Cordier, cette première rencontre avec le général de Gaulle?
Il se trouve que le hasard, j'étais dans le groupe qui était face à l'entrée, devant la petite porte qui était découpée dans la porte immense que l'on ouvrait pour les camions, etc. Et tout d'un coup, à 9h, la porte s'est ouverte, il y a un rayon de soleil, mais c'était incroyable parce que nous étions aux lampes électriques, il n'y avait pas de fenêtre dans ce local, et je vois un très grand personnage qui se baisse parce qu'il avait son képi. Et puis il se redresse et il était immense. C'était le général de Gaulle. Et le général de Gaulle marche et le général de Gaulle nous a salués. Il a dit repos.
Mettez au repos.
Et nous aider. Je ne vous féliciterai pas.
Je ne vous féliciterai pas d'être venu.
Vous n'avez fait que votre devoir.
Vous avez fait votre devoir. Quand la France agonise, ses enfants se doivent de la sauver. C'est-à-dire poursuivre la guerre avec nos alliés.
C'était pas possible, parce que quand même...
Il vous dit...
Je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous n'avez fait que votre devoir. Oh. Ah non, alors, ça, c'était pas possible. Alors, il a continué, il est toujours Pékin. C'était très court, il a dit entre autres, vous voyagerez beaucoup, vous irez vous battre dans le monde entier. Ce sera dur.
Ce sera dur.
Ce sera long.
Ce sera long.
Mais à la fin, nous vaincrons.
Voilà.
Mais à la fin, nous vaincrons.
C'est une phrase comme ça.
Alors, finalement, après avoir rencontré pour la première fois le général de Gaulle, après avoir entendu ce discours qui vous a sidéré, quelle a été votre réaction ?
Ah, très mauvaise. Accablé.
Dans quelle arme voulez-vous servir ?
Je choisis l'infanterie.
Pourquoi ?
Je veux tuer du Boche.
Votre nom est signé.
Alors finalement, dans cette jeune armée à Londres, vous choisissez l'infanterie parce que vous n'avez pas perdu votre objectif. Vous, vous voulez vous battre, Daniel Cordier.
Oui, d'accord, mais là, petit à petit, j'étais en train de toucher la réalité.
Ah.
C'est-à-dire que pour se battre, il faut savoir tenir un fusil. Il faut d'abord marcher au pas, il faut être des soldats.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que au fil de cette formation militaire qui va durer pratiquement 2 ans, vous allez aussi beaucoup réfléchir, parce qu'au fond, votre cœur était à Pétain, votre raison se doit de vous faire obéir à De Gaulle. Comment ça se passe dans votre tête, Daniel Cordier ?
Alors, mais Pétain était un traître, parce que nous devions partir tous en Afrique du Nord. Et ça, je n'ai jamais varié, et je n'ai qu'un regret dans ma vie, c'est qu'on ne l'ait pas fusillé.
À 94 ans, vous le pensez toujours ?
Ah, toujours. Toujours. C'est un traître, et il fallait le fusiller.
Écoutez-moi bien, Cordier. Ici, il n'y a que 2 camps, les patriotes et les traîtres. Oui, mon capitaine.
Voici vos papiers d'identité, permis de conduire, et carte d'alimentation... Au nom de Charles Daguerre, journaliste, ainsi que vos numéros de code français et anglais, et votre schedule.
Vous remettrez cela à Rex, le représentant du général de Gaulle en France, et le chef du service action en mission. Ne vous en séparez sous aucun prétexte, il y a 2 millions de francs dedans. Je vous rappelle que votre mission est secrète. Vous ne devez en parler à personne, même pas à vos coéquipiers.
À vos ordres, mon capitaine. Cordier, vous ne serez jamais assez prudent. Ne cherchez pas à jouer les héros, ça n'intéresse personne. Votre seul devoir est de durer. Je serai heureux de vous revoir vivant.
Et nous aussi, nous sommes très heureux d'avoir revu Daniel Cordier, soldat de la France libre, devenu secrétaire de Jean Moulin, alias Rex, le chef de la résistance unifiée. Suite des opérations juste après les infos sur RFI.
Vous serez parachuté en compagnie de Briand et vous retrouverez Schmitt à Lyon. Votre mission sera d'être le radio et le secrétaire de Georges Bidault.